16h-18h.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
2 heures de voyage tous les après-midi sur Europe 1, sans contraintes, sans frontières, sans virus, rien du tout. Juste pour le plaisir de rêver. Après 17h, nous partirons donc en Roumanie, pays de Dracula et de la mer Noire. Et là, nous sommes pour l'instant sur la côte Loire-Atlantique, avec comme guide le plus emblématique des navigateurs français à son palmarès. 3 victoires sur la Transat anglaise, 4 tours du monde, 48 traversées de l'Atlantique, dont 17 en solitaire. Quel tableau! C'est un enfant du pays, il y a tout appris, il ne l'a jamais quitté, il habite toujours là-bas, près de la Baule. Nous accueillons Loïc Perron, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour.
On est content de parler de votre région. Moi, il y a une question que je me pose quand même, c'est vous êtes un grand navigateur, vous avez fait plusieurs fois le tour du monde, mais vous êtes toujours là au point de départ. Pourquoi?
Parce que les tours du monde, bizarrement, quand on fait le tour de quelque chose, c'est qu'on revient au même endroit. Oui. C'est la théorie. Mais c'est un peu dommage d'ailleurs. Ce serait bien de s'arrêter de temps en temps. Le problème des marins en course, c'est qu'ils font des tours du monde sans s'arrêter. C'est un peu idiot. On part la plupart du temps, les Vendée Globe, vous savez, la prochaine édition partira dans quelques mois des Sables d'Olonne. Et on revient au Sables d'Olonne, qui est une jolie ville, mais ce serait pas mal de s'arrêter. Mais ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée du marin. Il aime bien traverser vite et revenir vite chez lui. C'est peut-être ça aussi.
Mais vous voulez dire que vous n'avez rien vu de la Terre ?
Pas grand-chose, que du bleu, essentiellement, en faisant le tour. Et c'est vrai que c'est pas un regret du tout, mais j'ai toujours rêvé de faire un tour du monde en famille et en croisière, et enfin lentement. Et ça ne m'est jamais arrivé.
Ah, c'est marrant.
Ça arrivera peut-être un jour.
Alors Loïc Perron qui rêve de faire un tour du monde, c'est vraiment
enfin,
étonnant.
Enfin, oui, mais un vrai avec des escales.
Un très lent tour du monde.
Et un très long, exactement. Donc il faut du temps, c'est bien ça le premier ingrédient, et puis il faut un bel outil sous les pieds. Alors j'ai la chance de rêver par autre propriétaire interposé, c'est que j'aide des chantiers navals ou un chantier naval français qui fait des bateaux justement de propriétaires pour des tours du monde à la voile.
D'accord. Et alors, cette région, qu'est-ce qui vous y attache autant, à part le fait que c'est le point de départ et que vous y revenez?
Oui, parce que j'y suis né et que j'ose espérer que la plupart des gens qui sont nés quelque part apprécient l'endroit où ils sont nés. Ce n'est pas toujours malheureusement le cas. On est parfois obligé de quitter pour d'autres raisons sa terre natale, mais être né au bord de l'eau, ici au Pouliguen, juste à côté de la Baule, qui est là, le petit village qui est à côté de ces grandes baies, qui se veut officiellement, d'après le guide touristique, la plus belle plage d'Europe. Bon, il y en a d'autres.
Oui, il y en a beaucoup. Et beaucoup de plus belles plages d'Europe.
Exactement. Mais du côté du Pouliguen, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être né dans une famille, dans un appartement, en tout cas d'être élevé dans un appartement qui donnait sur le port du Pouliguen. Et depuis tout petit, de ma chambre, je vois la mer. Donc, est-ce que ça a été un appel absolu? Je ne sais pas. Mes frères ont aussi navigué beaucoup et mes petites sœurs aussi. Voilà. Donc, on est tombé dedans étant petit. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui naissent au bord de l'eau font forcément du bateau. Hein. On serait trop nombreux d'ailleurs sur l'eau dans ce cas-là. Mais il y a une vraie attirance. Et alors, pourquoi ne pas avoir bougé? Bon, parce que j'ai eu la chance de bouger beaucoup, en fait. Et tout l'intérêt, je le dis souvent, des départs, c'est les retours. Et d'avoir une base familiale et un endroit équilibré. Et c'est vrai que ce département et cette région est assez équilibré dans tous les sens du terme. C'est pas... je ne sais pas pourquoi. C'est tempéré déjà par ce climat océanique, vous l'avez dit. On a d'un côté une belle rivière, la plus grande de France, mais de l'autre, l'un des plus beaux océans. Juste en face, ça tempère. Est-ce que ça tempère le climat seulement? Ça peut tempérer les tempéraments, justement. Ouais. Et puis aussi, alors il paraît qu'on a un microclimat local dû, et vous en avez parlé tout à l'heure, aux marais salants, les fameux marais salants qui sont juste à quelques centaines de mètres ou de kilomètres. Quelques kilomètres à côté de chez moi.
Ouais. S'il y avait un paysage que vous aimeriez évoquer de cette région, ce serait lequel ?
Les marais salants, je pense.
Ouais,
c'est assez étonnant. C'est un plat pays qui n'est pas le nôtre, ou qui est le nôtre plutôt, mais assez joli. C'est assez étonnant. C'est surtout, il y a une faune et une flore assez particulière. Alors, c'est relativement plat, avec quelques... point remarquable que sont Guérande, cette cité fortifiée, qui est un mini Carcassonne en gros.
Ah, c'est magnifique.
Qui est très très jolie, ouais, c'est une cité médiévale magnifique qui a été fortifiée pour protéger la richesse du lieu, à savoir le sel. Et puis après, on a les petites anciennes maisons des Gablous. Est-ce que vous savez ce qu'étaient que les Gablous?
C'est les douaniers, non. Pour le sel. Hein.
Ah, et ben voilà, la fameuse gabelle. La gabelle était la dîme et la gabelle qui était l'impôt sur le sel, et les gablous, c'était les douaniers. Ah. Alors, ils ont changé un petit peu de nom, mais pas toujours. Et un peu d'efficacité parfois, mais en tout cas, le sel est toujours une valeur très importante ici. Ouais. Moi, je suis très fier d'amener du sel de Guérande et de la fleur de sel un peu partout dans le monde.
Ah, vous en emmenez avec vous dans vos voyages ?
J'en emmène non seulement sur l'eau, mais j'en offre beaucoup, parce que c'est l'une des jolies choses qu'on peut offrir à des gens qui ont l'impression que le sel peut arriver de n'importe où. Non, le vrai sel, c'est à Guérande.
Et est-ce que cette région a beaucoup changé depuis l'arrivée du TGV ? Parce qu'on parle beaucoup de Nantes, de la Loire-Atlantique, c'est très attractif pour les urbains aujourd'hui. Est-ce que ça bouge ?
Ça a bougé beaucoup, oui, comme vous venez de le dire. Le TGV qui est arrivé ici par l'appui politique vraisemblablement de feu Olivier Guichard, qui était maire de la Baule et qui a été ministre de l'Éducation nationale, je crois, sous De Gaulle. Et c'est lui qui a tout fait. On a été l'une des premières destinations du TGV il y a maintenant plus de 30 ans, je crois, au moins, je ne sais plus exactement. Ça a tout changé, ça. Ça a radicalement changé la manière de rapprocher tout simplement le littoral des grandes villes.
Qu'est-ce qui a changé concrètement sur place ?
Bah, plus de monde déjà, mais une certaine facilité, plus d'échanges vraisemblablement, c'est tout l'intérêt des transports en commun, heureusement, lesquels devraient se développer encore plus évidemment. Il y a beaucoup plus d'échanges entre les différents endroits culturels ou touristiques et économiques. Après, oui, c'est une tendance mondiale, on le sait depuis toujours. Hein, le littoral, de par le monde, se charge de plus en plus.
Ouais. Et vous êtes toujours attiré par le littoral ? Vous allez à la mer comme tout un chacun ?
Non, je n'y vais pas. C'est bizarre. Ah, j'ai la chance d'habiter au bord de l'eau, donc ça me rappelle le bureau. Hein, je la tête. Pendant que je vous parle, je vois la mer, elle est juste devant moi. Donc forcément, et j'ai besoin de la voir. J'ai besoin de voir de l'eau, pas forcément celle-ci, mais de l'eau.
Et vous allez où alors, si vous n'allez pas à la mer ?
Alors, je vais dessus. Je ne vais pas à la plage, mais je passe par la plage éventuellement pour aller sur la mer.
Ouais.
Et alors, bizarrement, avec les bateaux et même les planches à voile et autres engins un peu volants aujourd'hui, on n'est même plus sûr, on vole au-dessus de l'eau maintenant.
C'est vrai.
Avec des petits engins à foil que j'apprécie particulièrement depuis pas mal d'années.
Loïc Perron, vous restez avec nous. On va continuer à explorer cette région et tout votre cheminement, votre longue vie dans cette région. Dans un instant, sur Europe 1. À tout de suite. Et si on partait tout à l'heure à 17h en Roumanie, au bord de la mer Noire et dans le monde de Dracula ? Et là, tout de suite, on retrouve Nantes et la côte Loire-Atlantique avec l'un de ses ambassadeurs les plus emblématiques, Loïc Perron. Loïc Perron, vous nous avez dit tout à l'heure que c'est peut-être la vision de la mer tout près de chez vous qui vous a donné envie de naviguer. Mais si mes infos sont bonnes, votre père était marin. Est-ce qu'il a été fier de vous voir partir sur l'eau ?
Ah, c'est un peu particulier comme situation à l'époque. Il était marin, oui, il était capitaine au long cours, on appelle ça, c'est un drôle de nom. Ça. J'étais très fier d'écrire ça sur mes copies d'école. Profession des parents, du papa, capitaine au long cours.
Déjà, ça avait de la gueule.
Ouais, ça avait de la gueule. Mais en gros, et puis c'est vrai que le pacha en question avait de la gueule aussi. Il avait des sourcils aussi gros que moi, j'en ai hérité, et des galons sur les épaules. Il était capitaine et commandant d'un des quatre plus gros pétroliers du monde. Donc on était très fiers de notre papa. Mais lequel a eu du mal à appréhender ce qui n'était pas un métier il y a 40 ans, à savoir vouloir vivre d'une passion sur l'eau à la voile. Lui nourrissait sa famille en transportant du pétrole pour mettre dans nos mobilettes, mais et il adorait le bateau à voile, et à chaque fois qu'il débarquait de ses pétroliers, il nous emmenait naviguer. Donc c'est à cause de lui qu'on a eu cette passion maritime. Mais par la suite, on a eu un choix, les uns derrière les autres, mes frangins, mon frère aîné et puis le troisième, on a eu le choix entre refaire une terminale. Aucun des cinq enfants n'a eu son bac, on était vraiment un peu bizarre dans ce domaine-là. Je comprends la détresse parentale à l'époque. Et à tour de rôle, on a été virés de la maison parce qu'on ne voulait pas refaire d'études ou continuer, mais plutôt essayer de vivre d'une passion qui était, ce qui n'était pas simple du tout à l'époque.
Attendez, vous avez été virés de la maison parce que vous vouliez faire de la voile ?
Ouais. Eh oui, enfin, du moins, on ne voulait pas continuer dans une voie classique d'études et d'apprentissage. Et l'apprentissage, on l'a fait sur le tas, tout simplement en allant naviguer sur des bateaux, mais qui n'étaient plus les bateaux, le petit bateau des parents, parce qu'on n'avait plus du tout le soutien parental, ce qui était assez fabuleux comme comme entrer en matière dans une vie un peu complexe. Et alors, quand le papa continuait à naviguer sur ses pétroliers, on allait, moi je me souviens, j'allais de temps en temps, un peu affamé, frapper à la porte pour qu'une maman nourrit toujours ses petits oisillons au fond du nid, c'est normal. Et heureusement, il était là. Mais en fait, il a fallu se démerder tout seul, comme beaucoup de gens le font, fort heureusement, mais peut-être un peu moins en ce moment.
Et est-ce qu'il vous a vu réussir ?
Alors, il nous a vu presque réussir. Le mot réussite en matière de voile, fort heureusement, dépend pas du nombre de victoires, parce que sinon, on réussirait presque jamais. On gagne peu. Mais il nous a vu naviguer beaucoup, bien sûr. Et j'ai eu la surprise, quelques années plus tard, de le voir à l'arrivée de ma première route du Rhum, quand j'avais 22 ans, donc en gros 4 ans après avoir quitté le giron familial. Je l'ai enfin revu. Il était là à une arrivée. Donc c'était très émouvant parce qu'on s'était pas revu depuis d'ailleurs, tout simplement. Donc il acceptait enfin le fait que cette passion dévorante qui nous a entraînés jusque-là puisse aussi être une sorte de métier.
Incroyable. Et pourquoi vous vouliez absolument faire ce métier? Qu'est-ce qui vous poussait?
Bah, j'ai été... Bah, déjà, par atavisme un peu, puisque familialement, même nos grands-parents naviguaient sur des petits bateaux, juste après-guerre, sur la Loire. Justement, ils descendaient la Loire pour revenir dans le petit port du Pouliguen ou du Croisic. Il y a eu ça. J'ai eu un tonton qui s'appelle Jean-Yves Terlin, qui a été un grand navigateur dans les années 70-80, contre qui j'ai couru par la suite, d'ailleurs. On en faisait tous les deux partie des marins qui ont fait le premier Vendée Globe, par exemple, il y a une trentaine d'années. Et puis aussi par les lectures. J'ai énormément bouquiné quand j'étais môme. Toutes les aventures maritimes m'intéressaient. Pas les régates, d'ailleurs, bizarrement. Les marins régatiers n'ont pas toujours été des grands conteurs. Alors que les familles qui avaient envie de partir autour du monde en famille, en solitaire ou en équipage, sur des bateaux construits dans les jardins en béton armé. Toute cette aventure de la construction, de la fabrication et de la découverte, m'a toujours passionné. Il y a ça, le fait d'être... Et puis la partie technologique, la partie invention, la partie... C'est un métier fascinant que le métier de la mer. Il y a beaucoup de métiers de mer, d'ailleurs, qui le sont, mais dans le domaine de la compétition, il y a un truc que je répète parfois. Vous savez, dans les 40 dernières années, c'est le seul domaine de déplacement sur la planète qui a multiplié ses vitesses par 4 ou 5. Ouais, on a des bateaux aujourd'hui qui vont 4 fois plus vite qu'il n'allait il y a 40 ans. Aucun avion, aucune Formule 1, aucune fusée va 4 fois plus vite aujourd'hui qu'elle allait il y a 40 ans. Ouais. Seuls les bateaux à voile ont progressé de cette manière-là et j'ai eu la chance de faire partie et des témoins et des acteurs de cette évolution sidérante. Quoi. Donc,
les trains vont 3 fois plus vite.
Non, ils vont pas, justement. Les trains, il y a 40 ans, les TGV a presque 40 ans.
Ah oui, c'est
il n'y a
vrai.
Pas beaucoup de trains qui vont 4 fois plus vite aujourd'hui, c'est ce que je veux vous dire.
Aucun c'est vrai que
moyen de transport n'a multiplié sa vitesse.
Mais vous avez raison. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre caractère qui a été forgé par cette région de Loire-Atlantique? Est-ce qu'il y a un esprit de cette région qui est en vous et qui vous mène?
Oui, je vous disais tout à l'heure une sorte de tempérance, une sorte d'équilibre. J'ai l'impression qu'on est assez bien équilibré. Alors, c'est très difficile de généraliser les choses et puis d'imaginer... Bon, le fait d'être né au bord de l'eau et d'avoir un certain respect pour cette nature, évidemment, mais il n'y a pas besoin d'être né en Loire-Atlantique, j'espère en tout cas, pour s'appuyer sur certaines convictions dans ce domaine-là. Mais peut-être que ce mélange... des gens entre une grande rivière qui arrive dans un océan et qui malgré tout... Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il y a plus de symbolique que de cas pratique à appliquer là-dedans. Le trait de caractère de la plupart d'entre nous, on est les uns et les autres forgés par notre éducation, par les parents qu'on a eu la chance d'avoir et qui nous ont ou appris ou pas appris d'ailleurs, ou qui nous ont donné surtout l'envie d'apprendre. Et c'est ce qui est l'envie de respecter les choses et les autres, et soi-même d'ailleurs, parce que c'est déjà un bon début. Tout ça fait que... Je pense que ça part de là. Alors maintenant, est-ce que c'est typique à une région? J'en suis pas convaincu, non. Heureusement non, d'ailleurs.
Moi, il y a une question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce que ça fait d'être tout seul au milieu de l'océan, absolument seul face aux éléments? Moi, je serais terrorisé. Vraiment, vous...
Non.
Mais comment vous faites pour ne pas avoir peur?
Parce que c'est pas ce qu'on va rechercher, déjà. Il faut être conscient des dangers éventuels. Mais la solitude n'est pas réservée aux personnes seules, malheureusement. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas aux personnes qui ne seraient pas entourées, il y a tellement, alors c'est un vrai discours démagogique que je vais vous tenir, mais il y a tellement de personnes seules dans les grandes villes, et tellement pas de marins solitaires qui se sentent seuls, parce qu'on est vachement entouré, bizarrement. On l'a été avant, et on le sera après, et on l'est presque un peu trop pendant d'ailleurs.
Vous ne parlez pas du danger, du risque qui est pris.
Alors, le risque, c'est un autre domaine. Le risque solitaire, c'est un autre domaine. Il est vrai que bizarrement, les marins casse-cou n'existent pas ou n'existent plus. Ils sont pas là pour le raconter. Bizarrement, on n'est pas du tout casse-cou. On est en analyse de risque permanent sur des bateaux complètement dingues. Ça, je vous l'accorde. Il n'y a pas pire, par exemple, que d'être tout seul sur un trimaran en équilibre instable, un bateau qui peut chavirer en quelques secondes et traverser l'Atlantique à une vitesse grand V, une fois de plus, 4 ou 5 fois plus vite qu'un bateau normal. Donc ça, c'est pas réservé. Tout le monde ne peut pas le faire, mais on est tous spécialisés dans des domaines au fur et à mesure de notre vie qui avance. Et après, la solitude elle-même, l'intérêt, c'est pas d'être tout seul. L'intérêt, c'est de mener tout seul des engins qui sont à peine menables en équipage contre d'autres marins solitaires, hommes ou femmes, qui elles-mêmes tentent le même challenge. Ça, c'est assez passionnant. C'est la confrontation et le respect permanent entre nous, d'ailleurs. C'est vrai que s'il y a bien un domaine sportif dans lequel, sportif et mécanique, dans lequel il y a un grand, grand respect parmi les acteurs, c'est en voile.
Bien, c'est marrant parce que vous ne parlez jamais de crainte ou de solitude
si, tout le temps.
Face à des éléments déchaînés. moi, c'est ça que je vois, mais vous n'en parlez pas du tout, c'est marrant.
Non, mais on a eu des dramaturges dans notre corporation qui l'ont fait très bien et qui continuent à l'écrire de temps en temps. Mais tout le monde n'est pas forcément... Moi j'aime bien dédramatiser, en fait, bizarrement. Ouais. Les anglo-saxons sont un peu plus larmoyants dans leur manière de raconter les histoires de voile. Certains Français le sont très bien en se faisant attraper par des calamars géants et heureusement qu'ils sont là. Il en faut, mais on ne peut pas tous larmoyer à chaque fois qu'il va se passer un truc quand même.
Merci beaucoup Loïc Perron de nous avoir parlé de votre région et de vous.
Merci.
Et je vous souhaite bon vent, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, il en faut, pas trop.
Merci, au revoir Loïc Perron, on se retrouve.
Salut, merci à vous.